de l'eschatologie ce soir, et on avait abordé la question de la prophétie biblique. Quelques remarques générales sur le caractère de la prophétie biblique. On avait dit la dernière fois que la prophétie biblique, comme l'avait bien noté Pascal, est un des principaux moyens d'apologétique. Et Pascal avait été impressionné par le nombre et la précision des prophéties qui avaient été réalisées. Les prophéties qui ont été réalisées, nous les laisserons de côté dans cette étude, non pas qu'elles soient inintéressantes, bien sûr, mais parce que ce n'est pas notre objet. Par contre, il y a des prophéties nombreuses qui restent encore à s'accomplir, chose que souvent, dans l'Église chrétienne, déjà d'ailleurs à l'époque de Pascal, on a voulu minimiser, on a voulu essayer de penser que la plupart de ces prophéties se trouvaient accomplies en ce qui concernait l'Église et que les prophéties, notamment qui touchaient à Israël, étaient à spiritualiser pour être appliquées à l'Église. En fait, la première chose qu'il nous faut dire lorsque nous parlons de la prophétie biblique à accomplir, c'est que nous touchons là à un sujet difficile. L'apôtre Pierre déclare qu'il y a, entre autres choses, dans les écrits de Paul, des choses difficiles à comprendre, dont les gens mal affermis tordent le sens, comme celui des autres écritures. Bon, ça ne s'applique pas directement à la prophétie, cette parole, mais on peut l'appliquer à la prophétie. Car la prophétie devient claire très souvent lorsqu'elle est accomplie, mais avant qu'elle s'accomplisse, ce n'est pas toujours évident de voir. Si nous prenons, par exemple, les prophéties relatives à la première venue de Jésus, nous nous rendons compte qu'elles n'étaient pas finalement si claires que ça jusqu'à ce qu'elles se réalisent. Le peuple d'Israël, dans sa grande majorité, s'y est trompé. Les apôtres même ont eu du mal à comprendre qu'ils étaient en train de vivre des prophéties qui se réalisaient. Et très souvent, le texte des Évangiles nous dit que ce n'est que plus tard que les apôtres ont compris que tel et tel passage de l'Écriture avait été dit au sujet de Jésus, au sujet de ce qui venait de s'accomplir. Et quand nous étudions, par exemple, comme nous faisons l'histoire d'Israël, des épisodes comme celui de la disputation de Barcelone, nous nous rendons compte que l'interprétation chrétienne des prophéties ne tombe pas aussi facilement sous le sens que ça. Et c'était ce qui avait été la grande surprise des chrétiens au Moyen-Âge, dans les dialogues avec les Juifs, c'était qu'ils s'étaient rendus compte que l'on pouvait interpréter les prophéties christologiques, disons, qui leur semblait, dont l'interprétation leur semblait aller de soi, parce que c'est ce à quoi ils avaient toujours été habitués, qu'on pouvait donner des interprétations différentes. Et c'est ce qui a fait qu'on a dit, les Juifs ne sont pas honnêtes, parce que finalement, la signification christologique des prophéties tombe sous le sens. Non ? Pas obligatoirement. Et précisément, nous avons des textes dans le Nouveau Testament, qui nous disent que Jésus a dû ouvrir l'esprit de ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Et par exemple, c'est ce qu'il a fait pour les disciples d'Emmaüs. Hommes sans intelligence, lents à comprendre et à croire tout ce qu'ont écrit les prophètes. Bon. Et puis, aux disciples rassemblés dans la chambre haute, quelques heures plus tard, il leur dira, justement, c'est là ce qui a été écrit. Il fallait que ça s'accomplisse au sujet du Messie, ses souffrances, sa mort, sa résurrection. Tout ce qui avait été écrit de lui. Alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Bien. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoirement facile. Bon. Maintenant, évidemment, quand la prophétie est accomplie, que nous avons, comme dans les évangiles, un guide de la prophétie qui nous permet de comprendre. Ceci, c'est ce qui est, finalement, c'est ce qui a été écrit par le prophète quand il a dit telle chose et telle chose. Prenons par exemple une prophétie comme celle que cite Matthieu au sujet de la sortie d'Égypte, quand il dit que Jésus donc est descendu en Égypte, enfant, poursuivi par la vindicte d'Hérode, puis en est remonté, afin que s'accomplisse ce qu'avait écrit le prophète Osée, « J'appelais mon fils hors d'Égypte ». Bien. Si on prend ce texte dans le contexte du prophète Osée, on se rend compte que le prophète Osée parlait du peuple d'Israël, se référant à la parole de Moïse, quand il était allé vers le Pharaon, « Israël est mon fils, mon premier-né, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. J'appelais mon fils hors d'Égypte. Bon. » Mais là, on est dans une midrashisation, qui est typiquement juive, de la compréhension prophétique. Jésus est aussi le fils de Dieu. Et en même temps, puisqu'il est fils, il incarne aussi toute l'histoire d'Israël, puisqu'Israël est aussi le fils. Il y a donc communauté de destin entre Israël le fils et le Messie fils. Donc, on peut légitimement appliquer une prophétie qui s'appliquait à Israël et lui voir un second accomplissement. La prophétie s'est accomplie une première fois lorsque Israël est monté d'Égypte sous la direction de Moïse, et elle s'accomplit une deuxième fois lorsque Jésus, le Fils, lui aussi, remonte d'Égypte comme avait fait le peuple d'Israël autrefois. Alors, aurait répondu Nachmanide à Barcelone, le Midrash est éclairant, mais pas contraignant. Et c'est pourquoi une exégèse de ce type-là est une exégèse un peu audacieuse. Comme les Midrash, d'une manière générale, d'ailleurs. Paul dira cela aussi. Il dira, quand nous interprétons l'Écriture, dit-il, il dit ça dans la deuxième aux Corinthiens, nous usons d'une grande liberté, on pourrait aussi traduire d'une grande audace. C'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi, dit-il, sommes-nous autorisés à cela? Parce que nous avons sur nous l'esprit de révélation que Moïse avait reçu. Et Paul dit ça en relation, si vous vous souvenez, avec le voile que mettait Moïse sur son visage quand il recevait les révélations de Dieu. Et il dit, pourtant, c'était un ministère passager. C'était une révélation passagère, puisque la gloire de Moïse, dont son visage rayonnait, s'estompait avec le temps quand il était descendu de la montagne. Mais, en quelque sorte, moi, Paul, enfin, et les apôtres qui sont avec lui, nous avons la même fonction de législation, de la même manière que Moïse était le législateur du peuple, par la révélation de Dieu qui lui était communiquée d'en haut. De la même façon, nous, les apôtres, nous faisons fonction de législateur de la Nouvelle Alliance. Et par conséquent, nous avons sur nous un esprit de révélation, un esprit de gloire, semblable à celui qu'avait Moïse, mais pas seulement semblable, supérieur à celui qu'avait Moïse. Parce que nous contemplons face à face le visage découvert, la gloire de Dieu. Et par conséquent, nous connaissons le sens véritable des Écritures. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'interprétation que nous faisons des Écritures prophétiques notamment, nous usons d'une grande liberté et d'une grande audace. Bien. Alors ça, c'est très bien, pour ce qui est de Paul. Quand M. Tartampion ou M. Mouchabeuf usent de cette même audace pour interpréter les prophéties, ça devient un peu plus discutable. Et c'est précisément ce que l'apôtre Pierre veut dire quand il dit, attention, il y a des choses difficiles à comprendre dans ce que nous dit notre bien-aimé frère Paul. Il en parle parce qu'il a reçu une grâce spéciale pour ça, dit-il. Et les personnes mal affermies en tordent le sens, comme ils font du reste des Écritures. Bien. Comment précisément Interprète-t-on les prophéties dans le Nouveau Testament? Ça, c'est la première question qu'il faut nous poser. Alors, la réponse est claire. C'est au travers du Midrash. Du Midrash et du Pécher. Le Pécher, c'est justement l'interprétation, pourrait-on dire, verset par verset. Par exemple, je ne sais pas moi, psaume 118. La pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, c'est l'Éternel que cela est venu. Ce verset s'applique à Jésus, pierre rejetée par les hommes, incompris par les hommes, mais qui a été précieuse et choisie aux yeux de Dieu, puisque Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Comme dira l'apôtre Paul, l'a souverainement élevé. Là, nous sommes à fond dans le domaine du pécheur. Bon. Alors là, ça ne veut pas dire obligatoirement que nous avons un sens littéral. Ça ne veut pas dire obligatoirement que l'auteur du psaume 118 pensait, lui, à Jésus quand il écrivait ça. Autre exemple de pécheur dans le Nouveau Testament, livre des Actes. Lorsque les apôtres ont été battus de verge et qu'ils sont donc dans la chambre haute, ils prient en disant « Seigneur, tu as dit par la bouche de ton saint serviteur David, tu as dit pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces complots parmi les peuples, les rois de la terre se rassemblent et les chefs des peuples, donc on peut aussi traduire du peuple, font ensemble alliance » contre l'Éternel et contre son Messie. Oui, disent les apôtres au Seigneur dans leur prière, c'est bien ce que nous venons de vivre, nous. Car dans cette ville, Jérusalem, Sion, sur laquelle tu as oint ton saint serviteur Jésus, ton Messie, Pilate, qui représente les nations, s'est allié avec Hérode, qui représente le peuple d'Israël, les chefs du peuple, pour accomplir tout ce que ta main et ton conseil ont déterminé d'avance. Voilà un pécheur du psaume 2. Bon. Un pécheur qui est une interprétation audacieuse de ce texte. Finalement, c'est la situation que sont en train de vivre les apôtres qui a été... dans laquelle il voit une annonce prophétique de la passion, mais qui n'épuise pas pour autant la richesse du texte. Dans ce sens, que ça ne veut pas dire que c'est le dernier mot de la prophétie, qu'à partir du moment, bon, puisque les apôtres ont interprété cette prophétie-là en relation avec la mort et la résurrection de Jésus, c'est fini. Cette prophétie-là, on la met de côté. Voyez-vous, Pécher et Midrash ont des résonances multiples, des harmoniques, comme on dirait en musique. Et il peut y avoir, à différentes époques, des choses des situations qui se ressemblent et auxquelles le texte prophétique va donner sens. Et ça, on voit ça, par exemple, l'image de la mère morte. Il y a ce qu'on appelle... le pécheur d'Abacuc, bon. Ou les questions des Kittim, les gens de Chypre. Bon. Les Kittim, eh bien, dans les manuscrits de la mer morte, c'est deux peuples, les Grecs et les Romains. Et pour l'aujourd'hui des gens de Qumran, ce texte est signifiant. C'est quelque chose qui... dans lequel ils voient justement une annonce prophétique de ce qu'ils sont en train de vivre. Ils sont opprimés par les Grecs. Deux, trois générations après, leurs descendants sont opprimés par les Romains. Ils reprennent les mêmes textes. On dit, mais c'était les Grecs. Bon, d'abord, à l'époque d'Abacuc, c'était peut-être pas les Grecs. Kittim, c'était des... Bon, enfin, admettons, c'est les Grecs. Donc c'est terminé, nous occidentaux, on va dire ça, c'est terminé. On a interprété, c'est les Grecs. Bon, ben d'accord, c'est les Grecs, c'est fini. viennent les Romains. Et on reprend la même interprétation pour son temps. C'est le pécheur. Vous voyez ? Alors, le Midrash, comme je disais tout à l'heure, il est signifiant, mais pas contraignant. Et alors, il faut justement cet éclairage de la révélation du Saint-Esprit dont parlait l'apôtre Paul, cette gloire, pour tirer, justement, c'est le mot Midrash, drash, tirer, faire sortir hors d'eux, hein, l'interprétation exacte du terme, du texte, qui d'ailleurs, obligatoirement, n'en épuise pas toute la richesse. Ce qui amène les exégètes chrétiens à d'une manière approximative, à voir un peu ça, en disant, mais il y a quelquefois la prophétie qui se répète, etc., un accomplissement proche, un accomplissement lointain. Ben, il y a différents niveaux, si vous voulez, différentes applications possibles. Alors, qui est habilité à faire ce travail ? Bon, mais d'abord, il y a le texte du Nouveau Testament. Le texte du Nouveau Testament est un midrash de l'Ancien, est un midrash des prophéties en particulier. Et c'est en cela qu'il est accomplissement de l'Ancien. C'est une des grandes affirmations, finalement, du christianisme, de dire « Le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien ». Oui, il faut s'entendre ce qu'on entend par là. Et il l'est parce que, justement, tout ce qui est accompli dans le Nouveau Testament est conforme à ce qui avait été écrit. Comme disent les bergers, ils voient, ils vont à Bethléem, ils voient un petit enfant dans la crèche, ils racontent ce qui était de ce petit enfant, ce qui était conforme à ce qui avait été annoncé par les anges, mais aussi par les prophètes. Et on voit chez un homme comme Matthieu notamment, mais enfin chez les autres aussi, mais plus chez Matthieu parce qu'il est plus marqué par l'écrit pour les Juifs, hein, ce souci constant de faire une référence à l'Écriture. Alors vous avez un Midrash qui peut être extrêmement littéral. Bon, ils ont percé mes mains et mes pieds, psaume 22. Ils se partagent ma tunique et ils jettent le sort sur mes vêtements, psaume 22 également. Ça s'accomplit littéralement. Sur la croix, Jésus, pour que l'Écriture soit accomplie, dit « J'ai soif ». Quelle Écriture ? Le psaume où il est écrit « Il m'abreuve de vinaigre ». Bon, et alors il se trouve que pour que l'Écriture soit accomplie aussi, littéralement, il y avait là la posca, un seau de posca, c'est-à-dire la boisson du légionnaire, de l'eau coupée de vinaigre, et on en imbibe une éponge et on en donne à boire à Jésus. L'Écriture est accomplie. Et quand il a dit ça, c'est la dernière Écriture qui doit être accomplie, et il dit tout est accompli, et il meurt. Bien. Pour que l'Écriture soit accomplie, Joseph d'Arimathée vient demander le corps de Jésus, et le corps de Jésus va être enterré dans un tombeau neuf, dans lequel jamais personne n'a été mis. Afin que s'accomplisse ce qui a été écrit, on a mis son sépulcre avec le riche. Joseph d'Arimathée était un riche de Jérusalem qui s'était fait creuser ce tombeau pour lui-même. Bon, c'est exceptionnel. Les condamnés étaient en principe jetés dans la fosse commune. Et voilà que, pour que l'Écriture soit accomplie, littéralement, c'est un accomplissement littéral de la prophétie. Puis vous avez d'autres textes où c'est un accomplissement qui n'est pas littéral du tout. Bon, je citais tout à l'heure le fils hors d'Égypte. Bon, ce n'est pas obligatoirement quelque chose de tout à fait littéral. Hein. On pourrait prendre d'autres prophéties du même type et se rendre compte que, bon, par exemple, ce qui concerne les souffrances de Jésus, bien sûr, il y a les textes du serviteur souffrant qui sont très nombreuses, toutes ces prophéties ne sont pas obligatoirement aussi précises en ce qui concerne les souffrances du Messie. Hein. La résurrection du Messie également n'est pas toujours non plus très très clairement exprimée. Bien, d'où justement la difficulté qu'ont eu les disciples à y croire. Bien. Alors, si vous voulez, il y a un accomplissement littéral et un accomplissement symbolique. Parfois, c'est d'un littéralisme terrible, et parfois, c'est une espèce de spiritualisation de la prophétie. Autre point, la prophétie est intemporelle. Et c'est ça, c'est quelque chose qui en fait la grande difficulté. Le prophète, le propre du prophète, c'est qu'il est transporté au temps de Dieu, dans l'éternité de Dieu. Vous savez que dans l'hébreu, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passé, de présent, de futur. Il y a deux formes verbales qu'on appelle l'accompli et l'inaccompli. L'accompli, ou le parfait, si vous préférez, certains grammairiens parlent du parfait, c'est par excellence le temps prophétique. Parce que Dieu parle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pour lui, tous sont vivants, dira Jésus. Dieu ne dit pas « J'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Il serait incapable de le dire en hébreu, d'ailleurs. Enfin, en hébreu, on ne peut pas le dire. Si, on peut le dire, à la limite, parce que pour le passé, ça existe. Mais Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, aujourd'hui. » Parce que Dieu s'appelle « Je suis ». Il est le seul qui peut dire « Je suis », d'ailleurs, en hébreu. Personne ne peut dire « Je suis ». Et Dieu parle toujours au présent. Si tant est qu'on puisse parler de présent en hébreu, puisque le présent n'existe pas, pas plus que le passé ou pas plus que le futur. Mais enfin, si vous voulez, Dieu parle, c'est toujours dans l'aujourd'hui. Ça veut dire c'est toujours dans l'éternité. L'éternité, c'est l'aujourd'hui éternel de Dieu, si j'ose dire. Et Dieu, pour lui, le passé et l'avenir sont présents dans l'instant que nous vivons, si j'ose dire. Et c'est pourquoi Dieu peut parler des choses du passé, comme si c'était aujourd'hui, comme dira Moïse dans le psaume 90, « Car 1000 ans sont pour toi comme le jour d'hier qui n'est plus. » Et puis Dieu peut parler de choses qui vont se passer dans des centaines, des milliers d'années, comme si c'était quelque chose de présent, comme si c'était quelque chose d'imminent. Et le prophète est un homme qui est saisi et transporté au temps de Dieu. Il voit les choses à la perspective divine. Et c'est pourquoi le prophète, je dirais, parle toujours au présent. Si j'avais eu la liberté de traduire cette Bible comme j'aurais aimé le faire, ce qui n'a pas été le cas, eh bien, tous les textes prophétiques, je les aurais traduits au présent. Alors que les traducteurs s'amusent à parler du passé. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, etc. Si un jour tu traverses les eaux, je serai avec toi. C'est des artifices de traducteurs. Dans le texte hébreu, vous n'avez pas du tout ces nuances-là. Si on veut traduire littéralement, il faut traduire « Ainsi parle l'Éternel qui te crée, ô Jacob, qui te forme, ô Israël. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je suis avec toi. Si tu as telle et telle difficulté, je te délivre. Te délivre aujourd'hui. » Ainsi parle le Seigneur Israël, le Seigneur éternel à Israël. Je ramène ta race du septentrion. Je dis de ces villes dévastées qu'elles soient rebâties. Mais enfin, Seigneur, c'est incroyable. Tout est en ruine. Oui, mais Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pour lui, s'il a décrété que la chose serait, elle sera. Et pour lui, elle est déjà. C'est comme si c'était déjà fait. Oui, mais ça va peut-être s'accomplir dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 3000 ans. Peut-être, oui. Sûrement même. Ça fait rien. Pour Dieu, c'est là. Il n'y a pas de temps. Et ces longs délais que nous observons dans l'histoire, dans le déroulement de l'histoire prophétique, n'apparaissent pas dans les prophéties, justement. Parce que là, on est dans le présent de Dieu, dans la prophétie. Alors vous voyez ça, par exemple, dans un texte comme Ésaïe 61, que Jésus cite à Nazareth dans la synagogue, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, pour proclamer l'année du jubilé du Seigneur. » Et là, Jésus s'arrête. Vous avez remarqué. La prophétie continue. Et un jour de vengeance pour notre Dieu. Pour donner aux affligés de Sion une huile de joie, à l'huile du deuil, etc. Jésus s'arrête. Pourquoi? Parce que ça, c'est la deuxième partie du programme. Et entre la première partie du programme qu'il va accomplir là, lors de sa première venue, il va y avoir 2000 ans qui vont passer. Alors voyez-vous, entre deux versets, il y a un intervalle de 1000 ans, de 2000 ans, au moins. Ben, le lecteur de l'époque de Jésus qui lisait Ésaïe 61, vous avouerez qu'il aurait eu bien du mal à voir entre ces deux versets ce hiatus de 2000 ans. Et il fallait précisément la révélation qui était celle de Jésus, qui lui pouvait dire, voilà ce que signifie l'Écriture. Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre s'accomplit pour vous. Mais simplement la première partie. Le reste, ça viendra plus tard. Alors, voyez-vous, quelques exemples ici pour nous montrer combien l'interprétation prophétique est quelque chose de délicat et quelque chose de difficile. Et, bon... Tout ce qui est des prophéties accomplies, et nous avons le guide du Nouveau Testament. Pour ce qui est des prophéties à accomplir, le Nouveau Testament peut nous donner aussi un canevas, un guide, mais pas surtout. Et quand on approche l'étude de la prophétie, il faut donc un esprit de grande humilité. Savoir, comme dira l'apôtre Paul, que dans ce domaine, plus qu'en aucun autre, nous connaissons en partie. Et que précisément, on peut se tromper. Et l'histoire de l'Église est dans le domaine de l'interprétation prophétique, l'histoire des erreurs faites dans ce domaine, justement. Combien d'interprétations erronées des prophéties n'y a-t-il pas eu dans l'histoire de l'Église? On pourrait écrire des livres et des livres sur l'interprétation des prophéties qui ne se sont pas accomplies. Alors, à l'inverse, certains pourraient dire, oh ben, puisque si c'est aussi difficile, laissons ça de côté. On verra bien. On laisse ça mystérieusement, on laisse de côté. Vous avez toute une fraction de l'Église qui ne s'intéresse en rien aux prophéties, parce que, justement, ils pensent que c'est trop confus. Vous avez, par exemple, quand vous lisez des traductions comme la Tobe, avec les notes, « prophétie confuse ». Bon, mais c'est pas, on ne fait même pas l'effort d'essayer de comprendre. Ou alors si, on dira, ça s'appliquait à Antiochus Épiphane, qui, etc. Bon, mais... un accomplissement futur, on ne fait même pas l'effort de chercher. Y en a-t-il un d'ailleurs? Après tout, les prophètes étaient, diront certains, des gens qui avaient une perspicacité un petit peu plus aiguisée que les autres sur les événements de leur temps. Jérémie avait vu que la puissance babylonienne serait dangereuse pour son peuple. Il avait un sens politique plus aigu que les autres, etc., qui croyait qu'on pourrait vaincre Babylone, etc. Bon, voilà le genre d'ineptie que vous lisez dans beaucoup de commentaires. Bien. C'est faire fi, évidemment, de l'inspiration. Et c'est pas comme ça, évidemment, que les disciples des prophètes ont considéré leurs prophéties. Ce n'est pas du tout comme ça que Jésus et les apôtres, évidemment, considéraient les prophéties. Considéraient les prophéties comme quelque chose qui était véritablement inspiré et quelque chose qui avait véritablement quelque chose à leur dire pour leur temps et finalement pour les temps de la fin. D'ailleurs, les rabbins aussi le croyaient. Et les rabbins ont cette phrase. Ils disent ceci. Tous les prophètes, tous sans exception, ont tous prophétisé uniquement en fonction des temps du Messie, c'est-à-dire de l'époque de la fin, des jours du Messie. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, disent les sages d'Israël, toutes les prophéties ont à voir avec justement la venue du Messie et des temps messianiques. Autre affirmation aussi des rabbins dans ce domaine, lorsque il est dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel. » Lorsqu'une prophétie commence par cette affirmation, on peut être certain que l'on a affaire à une prophétie messianique. Une prophétie qui s'accomplira au temps de la fin. Même si, au demeurant, il y a déjà eu un accomplissement, ou plusieurs accomplissements dans l'histoire. Ça n'enlève rien au fait que le but de la prophétie, c'est justement la révélation du royaume messianique. Le Nouveau Testament nous dit quelque chose d'un peu semblable quand il dit que l'Esprit, le témoignage de Jésus, c'est dans l'Apocalypse que vous trouvez ça, le témoignage de Jésus est l'Esprit de la prophétie. Donc, le témoignage de Jésus est l'Esprit de la prophétie. Jésus est le but, Jésus est le Messie. Et finalement, dire que toutes les prophéties, et d'ailleurs c'est ce que disait Jésus à ses adversaires, vous sont des Écritures, elles rendent témoignage de moi. Et connaissant, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait, à la fois dans sa première et dans sa deuxième venue. D'ailleurs, il le dit, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses avant qu'il entre dans sa gloire et qu'il établisse donc son règne. Bien. Toutes les paraboles de Jésus sont des commentaires, des prophéties, des midrashim, des prophéties. Le royaume des cieux est semblable à... Bien. La prédication de Jésus était centrée sur la venue du royaume, l'avènement du royaume, c'est-à-dire le royaume messianique. Et Jésus expliquait en parabole, justement, les prophéties. Et il y a, dans l'Apocalypse aussi, heureux celui qui lit les paroles de la prophétie et qui les garde. Il y a une promesse pour ceux, justement, qui étudient la prophétie. Alors, bien sûr, là, nous sommes sur une ligne de crête. On peut plaquer sur la prophétie ses propres a priori, lire avec des lunettes qui sont héritées d'une tradition, d'une histoire, d'une vision partielle et partiale des choses que l'on a héritées dans l'église dans laquelle on est, par exemple. Ou bien encore, et c'est l'autre extrême dont je parlais tout à l'heure, on peut carrément rejeter, dire « bon ben non, ça c'est incompréhensible, c'est même pas la peine d'essayer ». Justement, ça vaut la peine d'essayer. Mais d'essayer avec beaucoup de prudence et avec beaucoup d'humilité. Et puis, pour une autre raison, quelles sont les motivations? Je crois que ça c'est important aussi de dire qu'est-ce qui motive l'étude de la prophétie? L'homme, l'être humain, l'homme charnel, disons, est naturellement curieux de connaître les choses cachées. C'est ce qui fait la fortune des devins, des cartomanciennes, des Madame Soleil, tout ce que vous voudrez. Celui qui a une connaissance ésotérique, comme on le dit, cachée, occulte, a l'impression de connaître le pourquoi des choses, et par conséquent d'être supérieur au commun des mortels. Cette motivation malsaine, car c'en est une, n'est pas toujours absente dans les milieux évangéliques, dans la pensée de ceux qui s'intéressent à la prophétie. Or, le but de la prophétie, comme le but de toute écriture, n'est pas de satisfaire une curiosité. Le christianisme n'a jamais été et ne sera jamais une gnose, c'est-à-dire une connaissance secrète, une connaissance cachée, un salut par la connaissance. Le christianisme est, de fait, quelque chose qui est basé sur une connaissance. Il y a une révélation, donc, des choses à connaître, des choses que le Seigneur nous donne à connaître, mais pour que nous les mettions en pratique, pour que nous les vivions. Le but de la prophétie est de nous rendre attentifs aux événements, à nous permettre de les reconnaître et de vivre en conséquence. Exemple. Lorsque Jésus répond aux questions des disciples concernant la destruction de Jérusalem et son avènement, on trouve ça dans les synoptiques en particulier, c'est-à-dire dans Matthieu 24-25, dans Marc 13 et Luc 21. On appelle ça le discours apocalyptique de Jésus, vous savez, les discours prononcés sur le mont des Oliviers concernant la destruction de Jérusalem et la parousie. Jésus va donner beaucoup de détails sur la destruction de Jérusalem. En disant, bien voilà, quand vous... Voilà, en gros dit Jésus, Jérusalem, contrairement à ce que pense la majorité du peuple, ne va pas vers la délivrance, vers la rédemption messianique. Mais au contraire, vers sa ruine. Et lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées romaines, ne croyez pas, comme fera la majorité du peuple, que nous sommes à la veille de l'accomplissement des prophéties de Zacharie 12 ou Zacharie 14, qui disent que Jérusalem sera encerclée par les armées et sur le point de succomber, Dieu enverra le Messie et puis délivrera Israël. Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, etc. Effectivement, dit Jésus, dans la grande révolte qui va éclater quelques dizaines d'années après la mort et la résurrection de Jésus, on pourra croire qu'on est à la veille de l'accomplissement de ces prophéties-là. Et quand nous lisons Flavius Joseph, notamment le récit de la prise de Jérusalem, nous voyons que les élodes, jusqu'au dernier moment, ont cru qu'ils vivaient Zacharie 14. Ont cru que le Messie allait apparaître d'un moment à l'autre. Et alors même que les Romains étaient déjà dans le temple, sur le parvis, eh bien, ils continuaient à résister et ils continuaient à offrir les sacrifices. Joseph dit que le sang des sacrificateurs se mêlait à celui de leurs sacrifices parce qu'ils attendaient l'apparition du Messie. Quand vous lisez le discours d'Elazar Ben Yaïr à Massada, juste avant le suicide collectif, vous voyez qu'il fait allusion à ça. Nous espérions, comme disaient les disciples d'Emmaüs, nous espérions qu'en levant l'étendard de la révolte, nous allions provoquer la guerre eschatologique au cours de laquelle viendrait la rédemption. Et Dieu n'a pas envoyé sa rédemption. Et Lazare dit, vraisemblablement à cause de nos péchés, parce que nous n'en étions pas dignes. On voit toute la désillusion, toute la déception qu'il y a chez ces gens-là. Alors Jésus dit, attention, ne soyez pas séduits avec les autres. Quand vont éclater ces événements qui vont entraîner la grande révolte, la majorité du peuple va se prendre au jeu. Ça veut dire ça, c'est la guerre eschatologique. On voit les gens de Qumran, qui étaient en principe pacifistes. Eh bien, ils ont participé à la guerre. Cette guerre eschatologique qu'ils appelaient de leur vœu, qu'ils décrivaient dans, par exemple, ce qu'on appelle le rouleau de la guerre des fils de la lumière contre les ténèbres, la deuxième partie du rouleau du temple, qui décrit aussi la guerre finale, etc. On a ça aussi un peu dans l'écrit de Damas, dans le pêcheur d'Habacuc, justement aussi. Eux qui étaient restés très réservés, qui ne se mêlaient pas du tout à ce qui se passait, qui étaient non-violents, jusqu'à ce que vienne l'heure du grand règlement de compte final, eh bien, manifestement, quand a éclaté la grande révolte, on crut qu'ils y étaient. Et ils ont pris part à cette guerre, et ils ont été écrasés. Le site de Qumran a été détruit. Les derniers de ces gens-là, si c'était des Esséniens, nous ne savons pas exactement, mais enfin bon, sont allés à Massada, puis ont péri là-bas, avec les autres. Donc, dit Jésus, quand vous verrez ces choses, Jérusalem investie par les armées, non, ne pensez pas que c'est la rédemption qui va arriver. Au contraire, c'est la ruine de Jérusalem qui est proche. Fuyez. Ne participez pas à cet événement. Fuyez. Ce sont les jours de vengeance pour l'accomplissement de ce qui a été écrit. Ah, Jésus fait allusion à d'autres prophéties, là. Prophétie de Daniel aussi, sur laquelle il y a des subtilités, là, sur lesquelles le Midrash s'est arrêté. On voit ça, par exemple, dans un Midrash du Moyen-Âge, un certain Ibn Ezra, quand il est écrit que l'abomination et la désolation, il y a une faute d'orthographe dans le texte de Daniel 9. Alors, les critiques disent, oh, vous voyez, faute de copiste, etc. Les gens qui. Bon. Allez, ça, j'y serais. Non, pas faute de copiste. Quand il y a une faute d'orthographe comme ça, c'est voulu. Ça veut dire quelque chose. Sur le plan prophétique, ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, un mystère caché qu'il faut comprendre. Quel est ce mystère? Vous voyez, l'interprétation prophétique commençait profond en Israël. Eh bien, c'est ce qui est écrit dans Daniel 12. Celles, ces choses, elles seront cachées jusqu'à la fin. À la fin, il y aura des sages qui liront et qui comprendront. Et Dieu a caché des choses comme ça, des fautes d'orthographe comme ça, pour éveiller l'intention des sages, pour qu'ils réfléchissent et qu'ils cherchent à comprendre. Heureux celui, justement, qui comprendra. Et l'auteur, celui qui a rapporté les discours apocalyptiques de Jésus, fait allusion à ça. Il met entre tirés que celui qui lit fasse attention, que le lecteur comprenne, que celui qui peut comprendre comprenne. Parce que ce que dit Jésus là, c'est la révélation de ce qui a été caché dans Daniel 9. Jérusalem ne sera pas sauvée comme vous pouvez le penser. Non, c'est sa ruine. C'est l'abomination et la désolation. Votre maison sera désolée, votre temple restera désolé, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors il faut que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors fuyez, il y a une conduite à tenir. C'est pas du tout pour que vous ayez la connaissance, mais c'est parce que c'est votre vie qui sera en jeu à ce moment-là. Si vous restez dans Jérusalem, vous allez mourir. Bon, votre âme sera sauvée peut-être, mais enfin, c'est ce que le Seigneur a d'autres plans pour vous quand même. Que mourir bêtement, là, comme ça, dans le siège de Jérusalem, pour une révolte qui n'a pas de sens, finalement. Alors fuyez. Et on sait, par Eusèbe de Césarée, qui vivait au IVe siècle, et qui a écrit ce qu'on appelle l'histoire ecclésiastique, c'est-à-dire l'histoire de l'Église depuis les origines jusqu'à son temps, que précisément, lorsqu'a éclaté le siège de Jérusalem en 66, il y a eu une grande discussion dans l'Église de Jérusalem, entre ceux qui ont cru qu'il fallait fuir, justement à partir de ces textes, et ceux qui ont dit « mais non, ça va », etc. Et vous savez que, comme Jésus l'avait annoncé, ces jours ont été abrégés pour que les élus puissent être sauvés. Et qu'au beau milieu du siège, en 68, après 2 ans de siège, l'empereur Néron a été assassiné à Rome. Et les légions d'Orient qui assiégeaient Jérusalem ont nommé leur général Vespasien Imperator. Et Vespasien levait le siège pour marcher sur Rome avec ses légions, pour se faire investir là-bas. Et pour les gens de Jérusalem, c'est, ah voyez, c'est l'intervention de Dieu. Dieu nous a délivrés. On était dans le vrai, on était dans le juste. Ah voyez, comment on peut interpréter les prophéties? Mais vous ne connaissez pas Zacharie 14? Vous ne connaissez pas Zacharie 12? Regardez, on était sur le point de succomber et Dieu nous a délivrés. L'empereur est mort. Et maintenant, c'est la guerre civile à Rome. C'est pour des années, ils sont partis pour des années à se battre là-bas, entre eux les Romains. On va être tranquille pendant des années. On a regagné notre indépendance, on a atteint nos buts, on avait raison. Les prophéties sont en train de s'accomplir. Et voyez-vous, même dans l'église de Jérusalem, nous dit Eusèbe de Césarée, il y a eu discussion sur ce sujet. Et l'église de Jérusalem s'est divisée. Une partie, sous la direction de Shimon, un des frères de Jésus, qui avait succédé à Jacques après la mort de ce dernier, qui avait été assassiné quelques années plus tôt, a quitté Jérusalem pour se rendre en Transjordanie, dans la ville de Pella, où les chrétiens d'origine grecque, d'ailleurs, non-juifs, ont accepté de recevoir leurs frères juifs. Ils ont été sauvés. Et quand Vespasien a été à Rome et qu'il a remis de l'ordre là-bas, il a envoyé son fils Titus, pour terminer les sièges de Jérusalem, et là c'était implacable. Et là, ceux qui avaient cru qu'ils étaient en train de vivre les prophéties de la rédemption, eh bien, ont eu tout le temps de mesurer leurs erreurs. Et ceux qui étaient restés à Jérusalem parmi les chrétiens, qui n'avaient pas voulu croire, et qui avaient aussi interprété comme les autres, eh bien, ont eu le temps aussi de méditer sur leurs erreurs, mais ils n'ont pas réchappé. Alors, voyez-vous, Jésus donne des indications précises pour des raisons pratiques. Et toutes les prophéties de Jésus s'accomplissent toujours, se terminent toujours par des conseils pratiques. C'est pourquoi veillez, puisque vous savez ni le jour ni l'heure. C'est pourquoi celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qu'en faire Daniel 12, heureux celui qui endurera, qui attendra, qui persévérera, car il arrivera à 1335 jours. Ça veut dire, je ne sais pas. Alors on peut spéculer quand on ne sait pas. Faire des suppositions, ça ne sert à rien. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Il faut dire, je ne sais pas, c'est tout. Il faut avoir cette humilité dans la prophétie. Bon. Et là, on peut faire des erreurs énormes. L'histoire de Jérusalem le montre. Alors, c'est toujours pour un but pratique. Pour conclure sur ce point, disons ceci. C'est qu'il y a dans la prophétie des choses qui sont cachées, qui sont voilées. Et qu'il est vain de vouloir percer avant le temps. Et c'est le grand tort d'un certain nombre de milieux évangéliques, conditionnés qui plus est par l'esprit occidental cartésien, de vouloir justement percer des mystères qui restent des mystères. Alors, on est affligé, nous, en Occident, d'un autre, comment dirais-je, d'une tournure d'esprit qui veut qu'on veut toujours tout systématiser. Il faut faire un système cohérent et logique. Et alors, à partir des prophéties, on a aussi fait des systèmes logiques et cohérents. Et certains le sont. C'est ce qui fait leur succès. Vous savez, vous pouvez construire un système très logique sur des prémices qui sont fausses. Si au départ de votre raisonnement, dans la chaîne des raisonnements, vous savez, le ergo du syllogisme grec, hein, puisqu'une chose est comme ça, donc, on va de déduction en déduction. Ah oui, c'est très bien. Mais si deux ou trois chaînons de vos déductions de départ sont fausses, eh bien, votre raisonnement peut être ensuite très logique, mais il repose sur des prémices qui sont fausses. Vous connaissez le syllogisme qui a été décrit par Platon, « Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel ». C'est très logique. Alors, vous pouvez faire dire des absurdités, je ne sais plus comment c'était, quelqu'un se souvient après. Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, donc je suis Socrate. Oui, enfin, c'est logique, c'est tout à fait logique, mais c'est absurde. C'est pour montrer l'absurdité du syllogisme. Bon. Ça, la Bible ne raisonne absolument pas comme ça. Ça, la Bible ne connaît pas. L'esprit hébraïque est étranger à cette logique cartésienne occidentale. Et quand on plaque ça sur la prophétie, ça donne des catastrophes. Et alors, c'est pourquoi il y a une grande confusion actuellement, justement, quand on parle de la prophétie, à cause de ces choses-là. Alors, quand nous étudions la prophétie, et nous allons essayer de le faire, ce sera justement avec une très grande prudence. Il y a, par rapport justement aux prophéties concernant la parousie, puisque toute la parousie est prophétique, forcément, puisque c'est encore à venir, il y a des choses qui sont très claires. Et si l'on se tient aux choses qui sont claires, il n'y a pas de problème. Les choses qui sont affirmées d'une manière nette et claire. Si on veut évidemment entrer dans des détails. Alors, qu'est-ce que c'est que les 10 cornes de la bête? Ah, les 10 cornes de la bête. Et le chiffre de la bête, là, le 666, c'est quoi? Ah, on sent qu'on est là. C'est croustillant, c'est friand. Vous savez, quand on a publié sur les codes, là, qu'est-ce qu'on a reçu de lettres comme ça? Alors, à partir de ça, est-ce qu'on peut déterminer le chiffre de la bête? Est-ce que, puisque la numérologie biblique... Mais non, on ne peut pas. Puis qu'est-ce que ça t'avancera à quoi de connaître le chiffre de la bête? Ça t'avancera à quoi de savoir ce que c'est que les 10 cornes? Bon, si on est vraiment dans le temps, ça peut servir à quelque chose. Mais si c'est simplement pour dire, « Ah, moi je suis supérieur au commun des mortels, moi je connais le nombre de la bête. » Vous avez peut-être lu les frères Karamazov de Dostoïevski. Et dans Dostoïevski, il y a un des frères Karamazov, j'ai oublié son nom, qui avait beaucoup de succès dans les cercles mondains, parce qu'il savait expliquer l'Apocalypse. Ça voulait dire essentiellement les chapitres 11, 12 et 13 de l'Apocalypse, là justement, c'est où il y a les histoires des bêtes, de la prostituée, des cornes et de toutes ces choses-là, et justement du fameux nombre de la bête. Il savait expliquer ça. Il avait beaucoup de succès dans les salons mondains. Vous voyez le niveau que ça pouvait avoir. Quand les gens sortaient de là, ils s'étaient fait peur. Ah, la bête, ah, le faux prophète. Et puis qu'est-ce que ça changeait dans leur vie? Ben, rien du tout. Ils continuaient à mener leur vie de patachon sans que ça change rien du tout. Zéro. C'est pas ça la prophétie. Si on étudie la prophétie que pour ça, ça n'a aucun intérêt. Alors il y a des choses claires. Il y a des choses qui sont nettement affirmées. Et c'est ces choses-là que nous voulons garder. Ce que nous nous efforcerons, ce que nous ne ferons pas, c'est construire un système. Ce que nous ferons encore moins, c'est de construire un calendrier. Premièrement, il va se passer ceci. Alors là, le calendrier, oh là là, vous allez voir, il y en a de belles. Parce qu'on a une prophétie magnifique dans le livre de Daniel, chapitre 9, la prophétie des 70 semaines. Ah, vous voyez, 70 semaines, donc une semaine, c'est 7 ans. Donc 70 semaines, on multiplie 490 ans. Donc le pot, ça fait longtemps que les 490 ans sont passés et que la parousie n'a pas eu lieu. Oui, c'est vrai, il y a un os là, je n'ai pas pensé ça. Ah si! Ben, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il y a parfois, entre un verset et un autre, des grands silences. Eh bien, voyez-vous, entre la 69e semaine et la 70e semaine, il y a tout un temps là qui est indéterminé. Celui où Israël n'existe plus en tant que peuple, le temps des nations. Et là, l'histoire prophétique s'arrête. Ah, c'est vrai, je n'ai pas pensé ça. Mais c'est magnifique, mais c'est génial. Mais bien sûr, ça tombe sous le sens. Ah, personne ne lui aurait pensé, hein. Mais il y a eu quelqu'un, un génie, qui s'appelle Darby, qui a pensé à ça. Je me dis, mais c'est vrai, mais c'est formidable, ça. Et j'avais dit, dès qu'Israël va commencer à revenir dans son pays, ça, il y croyait, avant le temps, il faut lui rendre cette justice, comme beaucoup d'ailleurs, il n'était pas le seul. Hein. L'histoire prophétique va se remettre en marche. Dès qu'Israël va être proclamé, eh bien... on saura qu'on est dans les derniers 7 ans et que le Seigneur reviendra dans les 7 ans. 1948 plus 7, ça fait combien ça? Oui, vous voyez. On s'est un peu mis le doigt dans l'œil. Alors, il ne faut pas comprendre ça parce qu'en 1948, Jérusalem n'a pas été reconquis. Il fallait attendre 1967. En 1967, il y a des gens qui vous ont dit l'enlèvement de l'Église aura lieu en 1970, 3 ans et demi. Après le début de la première semaine, parce que l'Antichrist rompt son alliance avec Israël au milieu de la dernière semaine. Et l'enlèvement de l'Église aura lieu à ce moment-là. Et le retour de Jésus, la parousie, aura lieu en 1973-1974. 1973, il s'est bien passé quelque chose. C'était pas tout à fait ça quand même, hein. Oui. Vous n'avez jamais lu, cher frère, ce texte où Jésus dit « Personne ne connaît ni jour ni l'heure ». Ah oui, mais on peut connaître le temps. C'est vraiment tiré par les cheveux. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ni les moments que le Père a fixé sa propre autorité. Mais il y a les signes. Oui, il y a les signes. Les signes. On aura l'occasion d'en parler, des signes. C'est des signes. Ça ne donne pas des durées. Ça ne donne pas des... même encore moins des dates, bien sûr. Mais pas des durées. Même pas des durées. des signes. On sait qu'on approche. Comme dit Jésus, le figuier qui refleurit. Ça, faut comprendre aussi. En Israël, il y a deux saisons, hein, l'hiver et l'été. Et entre l'hiver et l'été, il y a un très court printemps qui peut durer quelques semaines au maximum et quelques jours au minimum. Ça veut dire que on peut très bien passer sans transition de l'hiver à l'été. J'ai vu ça 20 fois. Soudain, il fait froid, il pleut, c'est un vent glacial qui souffle du désert. Et puis le lendemain, paf, un soleil printanier, un soleil d'été. Puis c'est fini. Plus une goutte de pluie, c'est terminé. On est passé à l'été. Bon. Parfois, hein, vous avez plusieurs semaines comme ça, là, justement entre Pâques et Pentecôte, où c'est pas clair, il pleut, ça recommence, etc. Et puis, voilà. On ne peut pas savoir. Mais quand on voit le figuier qui commence à fleurir, dit Jésus, on sait qu'on va arriver dans le temps du printemps. Alors maintenant, combien de temps va durer ce printemps, ça on n'en sait rien. Mais on sait qu'on est dedans. Quand vous verrez ces choses, dit Jésus, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il ne faut pas savoir quand il viendra. Si c'est au milieu de la nuit, si c'est au chant du coq. C'est pourquoi je vous ai dit, comme je l'ai déjà dit, je vous le redis, veillez. Puisque ça n'est ni jour ni l'heure. La conclusion. C'est la conclusion permanente de Jésus par rapport aux prophéties. Et voyez-vous, et j'en terminerai là-dessus, la prophétie, il y a aussi un autre élément très intéressant quand on l'examine par exemple dans le Nouveau Testament et qu'on voit l'accomplissement des prophéties concernant la première venue de Jésus, c'est que c'est bien rare que ça s'accomplisse comme on l'attendait. On a une idée de la manière dont se réaliser les prophéties. C'est humain. Ça ne peut pas être autrement. Si vous prenez, par exemple, un livre remarquable comme celui d'Émile Gers, bon, qui est très tributaire de Darby, entre parenthèses, et qui, par conséquent, ne peut pas être pris au pied de la lettre, mais enfin, qui avait des intuitions extraordinaires. Bon. Quand Gers essaye de spéculer un petit peu sur la manière dont les choses pourraient se passer, bon, il écrivait ça au début du siècle dernier, du 19e siècle, c'était le moment où la Grèce commençait à regagner son indépendance, et il voyait là un grand signe prophétique, vous voyez, la Grèce, etc. Bientôt, donc, le même phénomène pourrait se produire en Israël, etc. On sourit quand on dit ça, avec presque 2 siècles de décalage. Bon, on sait bien que les choses ne se sont pas passées comme ça. Bon. Les choses se sont passées comment? Eh bien, on le sait. Il y a eu Herzl, il y a eu le sionisme, il y a eu la guerre d'indépendance, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'indépendance, bien. Mais qui aurait pu imaginer que ça se passerait comme ça? D'ailleurs, quand les événements se sont produits, je me souviens de ce que disait M. Kaufmann, quand il a voulu partir en Israël en 1948, y compris les collègues pentecôtistes, je lui disais, mais non, ne va pas là-bas, ça ne va pas tenir, c'est pas... Ça, c'est humain, c'est des athées qui sont en train de créer ce pays, c'est pas le plan, c'est pas les prophéties ne sont pas en train de s'accomplir. Et vous avez encore des gens qui disent ça aujourd'hui, de plus en plus. C'est pas comme ça qu'ils s'imaginaient que ça se ferait. Ça veut dire qu'ils ne croyaient pas qu'un jour l'État d'Israël serait reconstitué. Mais pas comme ça! Pas avec cette bande-là de socialistes qui sont imprégnés de marxisme jusqu'au bout des ongles. Enfin, c'est quand même pas concevable que ça se fasse avec des gens comme ça. Ça, le Rav Kook, c'était le premier grand rabbin d'Israël, étant du mandat anglais, a eu ce mérite de voir. Il dit, mais si, c'est le plan de Dieu. Pourquoi l'élite du judaïsme européen a-t-il été anéantie par Hitler? Alors qu'ils auraient pu échapper pour beaucoup d'entre eux s'ils étaient partis en ce qu'on appelait alors la Palestine. Parce que c'était des gens religieux, ceux qui ont péri dans les fours crématoires, c'est essentiellement les éléments les plus religieux du judaïsme européen. Et les mécréants, les marxistes, les athées, etc., c'est ceux qui ont échappé. On dit, mais pourquoi? Parce que justement, ces croyants-là, ces croyants juifs, Ils avaient tellement leur idée sur la manière dont venir le Messie que ce pays-là, de cette Palestine datée, ce Yishuv daté, ça ne pouvait pas être de Dieu. On sait comment ils ont persécuté un homme comme Bialik, par exemple, qui voulait ressusciter l'hébreu. Au début, jusqu'à maintenant, vous avez encore une fraction petite, mais des religieux qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël, parce que ça ne peut pas être, ce n'est pas un État qui est basé sur la Torah. Alors Dieu ne pouvait rien faire avec ces gens-là. Rien. Et le Rav Kook a dit, bien, puisque justement, les gens religieux, tu aurais dû entrer dans le plan de Dieu, tu aurais dû voir, non pas vu, bah, Dieu a pris les athées, Dieu a pris les marxistes, Dieu a pris cela, pour faire ce qu'il n'avait pas pu faire avec les autres. Et ces athées, etc., qui sont là, qui reconstruisent l'État d'Israël, disait le Rav Kook, font une mitzvah, ça veut dire une bonne œuvre plus grande que ceux qui étudient la Torah en Lituanie ou en Pologne ou en Russie. Il avait raison. Pourquoi ? Parce que les événements ne se produisent pas comme on le pense. Quand Jésus est venu, c'était pareil. Jean-Baptiste, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? C'est pas comme ça que je voyais le Messie. C'est pas celui que j'ai annoncé. Il a son van à la main, il nettoiera son air. Mais où est ton jugement ? Je comprends plus. Moi, Jean-Baptiste, je comprends plus. Les disciples, Jésus sur la croix, mais on comprend plus, Seigneur. Non, toi, le Messie, le Fils du Dieu vivant, moi, Pierre, je t'entends dire que tu vas aller à la mort, etc. Alors, à Dieu ne plaît, ça t'arrivera pas. Je ne comprends pas les prophéties. Si, je sais, mais je ne m'attendais jamais que ça s'accomplisse comme ça. Ben non, ça ne s'accomplit jamais comme on pense. Alors justement, ce sachant, eh bien évitons de dire ça va se passer comme ci ou ça va se passer comme ça, parce qu'on ne sait pas. Et justement, quand on dit ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça, quand ça se passe, on ne le voit pas. Ce que disait un homme de Dieu remarquable, qui était un juif qui avait découvert Jésus, en milieu catholique d'ailleurs, il s'appelait Ben Ezra, il était devenu jésuite en Uruguay au XVIIe siècle. Et Ben Ezra avait écrit un livre qui est assez céphale, bien sûr, mais enfin, qui est très intéressant dans une certaine mesure, qui a été réédité en son temps par Anto Marquis de la Brigade Missionnaire. Et Ben Ezra disait ceci, parlant d'Antichrist. Il reprenait, vous savez, l'histoire de l'Antichrist qui paraîtra de la tribu de Dan, qui sera juif, qui fera une alliance 3 ans et demi avec Israël, qui la brisera au milieu, qui s'assiera sur le temple, qui construira le temple de Jérusalem. Enfin, tout ce qu'on entend encore dire dans bien des milieux évangéliques aujourd'hui. Et Ben Ezra dit, moi je crains que tout ça, ce soit du roman feuilleton. Moi je pense que c'est trop beau pour être vrai si c'était ça. Eh bien, tout le monde verrait l'Antichrist venir gros comme une maison. Où serait la surprise ? La Bible nous dit que la majorité sera séduite. Si l'Antichrist venait comme ça, comme on le dit dans toute l'Église à cette époque-là, y compris l'Église catholique, et l'Église orthodoxe, je parlais des frères Karamazov tout à l'heure de Dostoïevski, il n'y aura pas de surprise. Donc, disait en toute logique Ben Ezra, l'Antichrist ne viendra pas comme ça. Il ne sera pas comme ça. Mais d'une manière beaucoup plus subtile. Et vous verrez, dit Ben Ezra, que l'Antichrist sera là depuis longtemps, que les chrétiens seront encore à l'attendre. Une réflexion très profonde, très judicieuse. En tout cas, son esprit est déjà là depuis longtemps, et il y en a plein qui ne s'en rendent pas compte. Je ne sais pas s'il est là, lui, c'est autre chose. En tout cas, son esprit est là. Et sur ce plan-là, Ben Ezra avait bien raison. Alors justement, la prophétie, c'est l'inattendu de Dieu, pour reprendre l'expression de Thomas Roberts. Et quand nous parlons de la prophétie, justement, parlons dans ce sens-là. C'est l'inattendu. Moi, je suis ouvert à tous les inattendus de Dieu. Dieu agit toujours d'une manière déroutante pour l'homme, pour l'esprit rationaliste de l'homme. Et justement, le sage, l'intelligent dont parle Daniel, celui qui aura l'intelligence pour comprendre au temps de la fin, c'est pas lui qui sera capable de déchiffrer le nombre de l'Antichrist, le fameux 666, lui dire la première corne c'est la Grèce, la deuxième corne c'est l'Amérique, la troisième corne c'est ceci, c'est cela. Mais c'est celui justement qui, dans un événement déroutant, va dire tiens, là, attention, que celui qui lit comprenne, que celui qui peut comprendre comprenne. Alors c'est ça, je crois que le but de la prophétie, c'est ça. Et quand on veut donner une introduction à l'étude de la prophétie, je crois que c'est les points essentiels qu'il s'agit de souligner.